Voilà, Shalom Lekoulam, j'étais samedi dernier à Yerushalayim pour le message que vous êtes vraiment très 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 nombreux à être venus écouter sur le site. J'étais assez réjoui, mais en même temps, au-delà de réjoui, comment dire, plutôt stupéfié, intéressé. Du fait que vous soyez venus si nombreux, vous êtes venus par centaines écouter ce message sur le site depuis samedi dernier, alors que nous n'avons pas fait une publicité particulière pour ce message. C'est donc l'Esprit de Dieu qui vous a conduit, tout autant que vous êtes, et qui allez écouter le message aujourd'hui, vers ce fameux message qui a une dimension prophétique et que vous avez écouté. Rentre dans ta maison, dans ton tabernacle privé, dans ton cabinet. Hein, comme il dit dans la version Martin, pendant que je passe et que j'apporte mes jugements sur la terre. J'ai donc parlé de cela samedi dernier et j'étais évidemment heureux parce que j'ai enregistré beaucoup de réactions par mail et aussi par commentaires sur le site. Et j'ai enregistré des réactions de trois types. D'abord, des réactions de gens qui ont compris les choses à un niveau qui n'est pas bon. Du style, oui, tu n'es pas seul, mon frère. Moi, j'ai arrêté de faire telle chose, par exemple, je ne vais pas dans les détails, mais des choses qu'on ne va pas faire normalement quand on est chrétien. Voilà, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas, je l'ai dit lors du message samedi dernier, de mettre vos vies en ordre si vous volez, si vous trichez, si vous êtes alcoolique et que vous êtes encore dans des problèmes de fornication ou autre. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit, tout ça étant normalement réglé, si c'est pas réglé, mais réglez-le vite. Mais il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'un appel de Dieu dans une communion fermée avec le Seigneur, tout à fait spéciale. Que j'ai moi qualifié d'une espèce de naziréat. Vous connaissez le principe du naziréat. Mis à part Samson était mis à part dès le sein de sa mère dans le naziréat. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas boire d'alcool. Pourquoi? Parce que l'alcool dissipe. Donc, pas d'alcool. Il ne pouvait pas. Voilà, il était mis à part. C'est-à-dire qu'il était obligé de se déconnecter des choses qui touchent l'âme. Et qui font que vous n'êtes pas en position d'écoute de ce que l'Esprit de Dieu veut faire. Et nous sommes faits d'un esprit, d'un corps et d'une âme, donc c'est un fait, et personne ne vous va reprocher d'avoir une âme, d'avoir des sentiments, d'avoir un intellect, parce que tout ça c'est de l'âme. Mais le Seigneur nous a dit samedi dernier, tout cela, vous vous en détachez. Et vous entrez dans une espèce de communion secrète avec moi où les choses doivent devenir esprit et rien qu'esprit. Voilà le message que j'ai relâché samedi dernier et j'ai évoqué une aventure qui est survenue, qui est arrivée à notre frère Samuel. Je vous rappelez-vous, il a regardé parce qu'il était fatigué. Vous voyez, la fatigue, c'est physique. Et pour se détendre, sa maman lui avait donné un film à regarder, qui n'était ni impur, ni occulte, ni rien de tel, mais qui était assez spécial quand même dans la mesure où c'est l'histoire d'un homme qui joue au grand héros aventurier, c'est ça en gros. Hein, j'ai pas vu le film, mais d'après ce qu'on m'a raconté. Et alors voilà, c'est le mec qui va dans la montagne. Je dis bien le mec, hein, parce que c'est l'idée du film. Je n'aime pas l'expression, pardonnez-moi, mais c'est qui va dans la montagne. Il est seul face aux éléments. C'est le héros, voilà, comme on aime en décrire maintenant dans tous les plupart des films. Hein, quand ce n'est pas sexe à gogo, ou bien violence, ou kung-fu, que ce que je sais, c'est l'homme qui défie la nature et peut-être Dieu lui-même à la limite. Et puis voilà cet homme qui, j'imagine, marchant dans les neiges de je ne sais quelle montagne, au Tibet, je ne sais pas où, moi, finit par tomber dans une crevasse. Et là, évidemment, son bras se cale d'une mauvaise manière. Et puis il passe je ne sais pas combien d'heures, et puis il n'arrive pas à se dégager. Et à la fin, évidemment, n'est-ce pas? C'est au fond le clou du film. C'est très violent, c'est extrêmement brutal. Il doit se couper le bras pour sortir de sa crevasse. Alors c'est quelque chose, ce n'est pas occulte, ce n'est pas impur sexuellement, c'est pas ça, mais c'est, comment on dit, c'est trash, c'est ça le mot maintenant ? C'est trash, c'est fort, hein ? C'est fort. Alors, vous voyez, sous un couvert d'une belle histoire, entre guillemets, soi-disant, en fait, on vous mène vers quelque chose d'extrêmement dur, extrêmement violent. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ça a frappé quelque chose dans l'âme de Samuel, ça l'a ému d'une façon très profonde, et j'ai développé samedi dernier le fait que, dans les temps de la fin, le diable va faire quoi ? Il sait que le Seigneur revient, que le royaume de notre Dieu qui revient, c'est un royaume d'esprit et de sainteté qui n'a rien à voir avec tout ce qui est trash. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. L'amour selon le Seigneur, ça n'a rien de trash. Tout l'amour dont on parle aujourd'hui partout, c'est trash. Voilà, regardez comme elle est jolie, elle a déjà divorcé 2 fois, elle a 3 enfants avec lui et 2 avec l'un. Et puis ceci, mais elle est toujours belle, regardez, d'ailleurs on l'a photographiée nue sur la plage et elle était d'accord. C'est trash, vous voyez, c'est fort, c'est violent. Et cette violence est en train, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, de se développer aux yeux de tous comme un spectacle atroce aujourd'hui. Je pense qu'encore aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est le Daesh, là, veut décapiter un journaliste anglais, je pense.
Dernièrement, hier avant-hier.
Oui, exactement. Encore un autre. Donc, oui. Il y en a tout ça, bien sûr. Alors, je veux dire, ces choses-là, on n'aurait même pas imaginé qu'elles existent il y a encore 1 an ou 2. Et maintenant, vous savez, quand je vois les journalistes qui parlent de ça à la télévision, j'ai l'impression que bon, on s'habitue déjà.
Oui.
On s'habitue. Mm. Passons au sport. Moi, j'ai vu ça. Mm. C'est hallucinant. Et c'est le but du diable, c'est de vous habituer au mal d'une telle façon que vous perdiez toute sensibilité. N'est-ce pas ? Or, je dis qu'une des grandes vertus du judéo-christianisme, c'est de nous éveiller à la sensibilité. Si la culture occidentale est pétrie de sensibilité dans les arts, c'est un des fruits du judéo-christianisme. Et ce n'est pas le fruit de la barbarie. Les sociétés barbares ne produisent pas cette sensibilité, cette délicatesse. Voilà, donc je vous ai mis en garde contre ça, mais l'aventure de Samuel était riche d'enseignements et j'ai omis d'en parler dans le message de samedi dernier et je vais donc en reparler maintenant. Il n'a donc pas supporté dans son âme, et je dis que c'est une bonne chose, parce que quand notre âme commence à supporter l'insupportable, c'est grave. C'est par là que, vous savez, il y a toutes sortes de façons de nous détruire. L'attiédissement, c'est une des méthodes du diable pour vous détruire. Si le diable sait que vous aimez votre confort, il peut faire en sorte que vous ayez tout ce qu'il vous faut pour que justement vous ne... Vous comprenez ce que je veux dire ? Attention, il y a d'autres méthodes qui est celle de tuer votre âme, de la paralyser, de la saturer de choses horribles auxquelles, pour que vous vous habituiez. C'est une forme de réaction pour ne pas devenir complètement fou devant l'horreur. On préfère s'habituer. Je crois que c'est un réflexe. Mais notre frère n'a pas supporté ce qu'il a vu. Il y a quelque chose d'une extrême violence qui a touché son âme. Et il est allé dans sa cuisine et il a voulu boire un verre d'orange, de jus d'orange. Et probablement qu'il était pâle, très pâle à ce moment-là. Et il est tombé en syncope d'émotion, un jeune homme, rendez-vous compte. Alors, je crois qu'il y a là un discours de Dieu qui est extrêmement important et nous devons comprendre. Et sa tête a heurté une partie vitrée de la cuisine, elle a brisé, et il s'est assommé et resté sur le sol longuement. Frères et sœurs, il y a là un message du Seigneur que le Seigneur, à travers l'aventure de Samuel, veut nous donner. Je crois que vous comprenez qu'il y a là un avertissement de la part de Dieu. Vous comprenez mieux pourquoi nous devons nous réfugier dans une intimité très incandescente, spirituelle, loin de tout ce qui peut toucher notre âme aujourd'hui, même les choses apparemment légitimes. Je vous assure, le temps que vous prenez aujourd'hui à lire un journal peut être extrêmement dangereux s'il n'y a pas, surtout, moi je le vis en tout cas, quelque chose de très fort dans votre relation avec Dieu. Alors qu'hier, vous pouviez le faire. Aujourd'hui, on ne peut plus. Il y a quelque chose, je ne sais pas si je me fais comprendre, comment faire comprendre ce que je ressens. Il y a des tas de choses légitimes que nous vivions hier. Je crois que Dieu nous demande, nous dit, même ces choses légitimes, parce qu'elles participent de vos âmes et de la vie de vos âmes, et même de vos corps. Aller se promener, par exemple, un dimanche entier, eh bien, vous allez dire, mais c'est légitime. Eh bien, moi, ça me dit non. Tu ne peux plus. Tu ne peux pas. Je n'ai jamais fait, je n'ai jamais eu le temps. Mais, j'essaie de faire comprendre un message. Il y a quelque chose d'important. OK ? D'ailleurs, Samuel, depuis, m'a confirmé que depuis un certain temps, le Seigneur lui demandait de se retirer, il le sentait lui-même, de diverses occupations ou bien distractions, absolument pas illégitimes, mais n'appartenant pas aux choses de Dieu en direct, de façon exclusive. Donc attention! Ce n'est pas quitter ce qu'il faut quitter parce que c'est mal, c'est quitter des choses normales parce que Dieu dit il faut resserrer les liens, il faut vraiment rentrer dans une communion bien plus grande avec moi que jamais. Et je n'ai jamais demandé ça peut-être aux hommes jusqu'à aujourd'hui. Je vais jusque-là dans mes âges, je répète, je n'ai peut-être jamais demandé cela dans toute l'histoire de l'humanité. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à un temps charnière d'une importance énorme, et qu'il ne faut pas louper ça. Et ce n'est pas un hasard si c'est le jour de Yom Kippour, s'il vous plaît, dois-je expliquer que je vous lâche ce message. Et ce n'est pas un hasard si Dieu m'a demandé, alors que je ne l'ai jamais fait, parce que je déteste les simagrées religieuses, n'est-ce pas ? C'est pas un hasard si le Seigneur m'a demandé aujourd'hui, alors que je ne l'ai jamais fait, vous êtes témoin ici. Dieu m'a dit, aujourd'hui tu sonnes du chopard. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. Et ce n'est pas un jour spécial seulement pour nous, c'est un jour spécial pour beaucoup de choses. Et il y a deux personnes qui ont été touchées cette semaine dans leur lecture biblique qui viendront témoigner tantôt de ce que Dieu leur a dit. Ok, Samuel m'a confirmé qu'en fait, depuis un certain temps, mais vous savez, il y a des choses que l'Esprit de Dieu nous dit, mais on ne comprend pas. Il ne savait pas pourquoi il devait se détacher de ses horloges, de ses machins. Il est dans l'horlogerie. Et voilà, il a un joli petit appartement. Hein, je l'ai vu hier. Très bien, félicitations. Mais quand tu t'y trouves maintenant, tu sens très bien que Dieu te dit, lorsque tu regardes trop longtemps un objet, détourne tes yeux, passe du temps avec moi. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Une espèce de mise à part complète qui est extrêmement importante. Et il m'a dit, maintenant je comprends ce que Dieu voulait me dire. Il cherchait à se cultiver à travers la musique, les arts, etc., parce que ça lui manquait, étant donné ses orientations précédentes et le contact qu'il a eu avec moi à certains moments, qu'il soit un ancien artiste. Alors il a voulu aussi se cultiver. Et tout ça, Dieu lui a dit stop, 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 tu arrêtes tout ça. Et fini, c'est pas le moment. Frères et sœurs, il y a un discours de Dieu qui est extraordinaire dans tout ça. Et je ne sais pas si nous allons le capter. Faites attention à ce que je vous dis. Je vais y venir dans quelques instants. A priori, se cultiver, est-ce que c'est mal ? Ben non ! Se cultiver, c'est quoi ? C'est découvrir la culture du monde dans lequel on se trouve. C'est normal. Si je veux me cultiver en manière de cuisine, je vais dans la cuisine qu'Elisheba entretient si bien, j'ouvre les placards, je regarde ce qui s'y trouve. Autrement, je ne sais même pas comment cuire des spaghettis. Je me cultive, c'est tout. Si on me parle de Picasso, ben, je vais au moins voir une fois dans un musée un Picasso pour avoir une opinion. Et je demande à quelqu'un de m'expliquer. Autrement, je vais dire, comme beaucoup de sots, n'importe qui peut le faire, ce qui n'est pas vrai du tout. Bon, on passe, on n'est pas là pour parler de culture. A priori, se cultiver, est-ce mal ? Non, a priori. Sauf si c'est s'abreuver à des choses qui devraient, qui seraient devenues inutiles au regard des temps de Dieu. Ça veut donc dire, écoutez bien ce que je vais dire, que tout ce qui concerne notre culture judéo-chrétienne, depuis 2000 ans, est quelque chose qui est en train de finir. Mais ça ne finit pas parce que nous le constatons, mais parce que Dieu a la main sur toute chose et que quelque chose est en train de basculer bien au-delà de nos petites préoccupations quotidiennes. Et qu'il faut s'élever au niveau des pensées de Dieu pour comprendre ce que Dieu est en train de vouloir. Parce que si Dieu abaisse d'un côté, c'est qu'il va élever d'un autre. On y viendra dans ce message. On y viendra. Il y a derrière ce signal qui a été lancé samedi dernier, qui a été illustré par l'accident de notre frère Samuel. C'est Dieu qui a parlé à travers l'accident de Samuel. Il n'y a rien qui se fait au hasard. Quand quelque chose survient parmi nous, nous devons toujours nous demander qu'est-ce que Dieu veut nous dire ? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ? Et Dieu nous a parlé à travers son accident. En tout cas, moi, il m'a parlé. Il y a donc derrière ces signaux quelque chose d'important qui se profile à l'horizon et qu'il faut discerner. Quand je dis à l'horizon, je suis optimiste, qui se profile devant notre nez. C'est là. Amen. En ce qui concerne l'Europe et les USA, ce qui en dépend, je parle de l'influence européenne dans les colonies, etc. Nous voulons vivre 20 siècles traversés de lumière judéo-chrétienne. Confrontés à deux grandes influences démoniaques, je ne vais pas développer, je n'ai pas le temps, mais si vous voulez étudier à fond les bases qui ont structuré de façon démoniaque l'Europe, les États-Unis et tout ce qui en découle, face à la lumière judéo-chrétienne du Tanakh et de l'Évangile, vous avez deux entités fondamentales. Vous avez l'esprit de corruption de la Reine du Ciel, qui vient du Moyen-Orient et qui a touché tout le sud de l'Europe. Et vous avez un autre principe démoniaque extrêmement violent, qui est ce qu'on appelle l'esprit de frayeur. C'est un culte phallique, il faut le dire malheureusement, et solaire, qui sous-tend toute la structure politique de l'Europe par le processus du fils aîné qui reçoit tout l'héritage. En gros, c'est ça. Et qui a structuré toutes les royautés européennes et tout le gouvernement. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les gouvernements européens, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de tout cela, mais il y a là quelque chose d'extrêmement démoniaque aussi. Et l'esprit de la Reine du Ciel qui vient du bassin méditerranéen, qui remonte en Europe, et l'esprit de Freyr, qui sont tous les deux des esprits à forte densité d'impureté sexuelle et d'occultisme. Et ce sont les armes favoris par lesquelles le diable emprisonne les humains. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et si vous cherchez le pays où se rencontre le plus l'influence de la Reine du Ciel venue du Sud et l'esprit de Freyr, qui est illustré par exemple par Louis XIV, qui disait « Je suis le roi soleil, par hasard, c'est la France ». Je n'en dirai pas plus. Mais si vous voulez savoir ce qui va arriver à l'Europe, regardez ce qui arrive à la France et vous saurez ce qui va arriver à l'Europe. Ça veut dire que nous sommes arrivés à la fin de ce temps. D'un côté, une lumière judéo-chrétienne qui a traversé des populations païennes et d'un autre côté, des principes démoniaques, Freyr et la Reine du Ciel, qui ont essayé aussi de structurer, n'est-ce pas, ces sociétés occidentales. Et le tout s'est entremêlé parfois. Quand vous allez dans l'église catholique romaine, vous trouvez un mélange des deux, influence judéo-chrétienne et démoniaque, voyez ? Et c'est peut-être ça l'image des pieds de la statue dans la vision de Daniel, l'argile et le fer. Ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire que ces 20 siècles-là, je pense que ce Kippour, si, marque un tournant. Il dit, voilà, c'est fini. Je ne prêche pas la destruction de l'Europe. Je dis que doivent disparaître et vont disparaître les choses qui doivent disparaître. Les Juifs sortent d'Europe de plus en plus, Ce n'est pas un hasard. Les Juifs étaient présents en Europe avant même que Yeshua Messia ne vienne sur cette terre. Si les Juifs quittent maintenant et vont quitter massivement l'Europe, c'est un signal extraordinaire. Ok ? Il y a quelques jours, je suis revenu de Tel Aviv, j'ai pris l'avion avec les chevaux, et nous étions assis à côté d'un monsieur. Moi, je suis toujours très attentif quand quelqu'un vient s'asseoir à côté de moi, parce que j'ai remarqué très souvent qu'il y a quelque chose de Dieu qui va se passer. Et alors, nous avons, j'ai entendu un nom que je ne connaissais pas, qui était cité au parlophone, là. Et puis, j'ai dit à ma femme en hébreu, tiens, tu connais ce nom-là? Je ne connais pas. Et lui, il m'a dit, oui, c'est des Tunisiens, c'est des Juifs Tunisiens. Alors, on a commencé à discuter. Et puis, cet homme m'a dit à un moment donné, vous savez, Hitler a fait un mal immense à notre peuple, mais il a fait encore autre chose de terrifiant. Il a tué l'Europe qui ne s'est jamais relevée dans son âme de l'aventure 14-18-40-45. L'Europe a été massacrée dans son âme. L'Europe aujourd'hui, depuis la fin de la guerre, est un grand malade qui ne sait plus comment il peut relever la tête. C'est un malade. Ok ? Elle a été marquée. J'ai pas besoin de vous donner les détails. Hein ? Elle a été marquée parce qu'elle a vécu sous un déluge de feu, de fer, de folie pendant deux guerres mondiales. Vous n'avez pas vécu ces choses, moi non plus. D'ailleurs, je suis né en 48. Mais attention, il s'en est passé des choses. De grands intellectuels comme Stefan Zweig se sont suicidés après cela, dans les années 20. Je me suis dit, mais l'Europe est en train de partir. L'Europe qui avait un niveau qui était à son apogée d'une certaine façon, au niveau culturel, au niveau intellectuel, au niveau moral, au niveau technologique. Tout ça étant les fruits aussi, quand même, de 2000 ans, de 20 siècles de judéo-christianisme. Mais cette Europe-là était engloutie dans une aventure terrifiante pour les âmes. Je crois qu'on n'aura jamais analysé à fond, enfin, moi je n'ai même pas encore fait dans ma propre famille, les conséquences de ces guerres. Il y a eu des morts, il y a eu des choses terribles, des vies brisées, énormément. L'Europe, héritière d'une longue traversée de l'Esprit de Dieu, au travers du judéo-christianisme, avec les Juifs comme peuple témoin d'ailleurs, et au prix de quels combats terribles entre chrétiens, et de chrétiens juifs, etc., etc., mais avec aussi, pendant 20 siècles, de superbes percées de l'Esprit de Dieu. Il y a eu des réveils merveilleux dans le Seigneur. Alors très souvent, on regarde ces choses en arrière, on se dit « Ah, il y a eu tout ça, c'est formidable !» Mais on oublie une chose, c'est que c'est en train de finir. C'est en train de finir. Et qu'il faut être dans le bon wagon pour savoir où on va. Qu'est-ce qu'on va vivre ? Ok, je vous ennuie pas trop avec cette chose, non ?
Non.
L'Europe, dans une certaine mesure, a terminé sa course d'âme, sa course de corps, n'est-ce pas ? Non d'esprit, dans une tragédie terrifiante qui l'a enfermé dans sa propre destruction, dans son suicide, destruction des émotions absolues de cette guerre de 40-45. On ne se rend plus compte aujourd'hui. Ici en Suisse, peut-être, on ne se rend pas très bien compte de ça. Mais allez parler aux Belges, allez parler aux Français, allez parler aux Allemands, allez parler aux Allemands. Mais ces pays étaient dans un état, mais c'était terrifiant après. En une nuit, la ville de Dresde bombardée avec combien 50 000 morts brûlés au phosphore ou je ne sais plus quel. Écoutez, ça laisse des traces terrifiantes dans les âmes. Tout cela relève de l'âme. Il suffit de voir que l'Europe n'est pas guérie, tout ça. Il suffit, par exemple, de voir en librairie, vous avez peut-être vu comme moi aussi, le nombre incroyable de livres et de films qui illustrent quoi ? Toujours, et toujours plus, Hitler ! Il y a sans arrêt des films sur Hitler, sur les SS, sur les tout ce que vous voulez, la Wehrmacht, il n'y a que ça. On a eu le débarquement récemment, il y a eu une flopée de livres de toutes sortes avec des photos, les casques de l'armée allemande, les armes de ceci. On dirait qu'il y a une espèce d'engouement pour cette période parce qu'elle a tellement marqué la destruction de l'âme de l'Europe que les gens sont comme fascinés par cela. Il y a quelque chose de fascinant. Le mal fascine. Les deux guerres etc. Des films et des livres sur les deux guerres pour se rendre compte à quel point les choses ont marqué l'âme européenne en l'éloignant de l'esprit et des fruits de l'esprit. La culture populaire européenne d'aujourd'hui recycle plus que jamais la tragédie mortelle de l'Europe. Je faisais la réflexion avec ma femme l'autre jour, il y a 2 mois, on est allé acheter un journal ici en France. Et puis je voyais mais une flopée de livres, Hitler par-ci, Göring par-là, les SS, et puis ceci, et puis... Je dis, mais les gens, on devrait au contraire tourner la page. Et on a une espèce d'appétit pour ces choses aujourd'hui qui est grave. Ce qui veut dire que l'âme est malade. Ce qui est arrivé à Samuel, à peu près en même temps que j'enregistrais, alors écoutez bien ceci, le message de samedi dernier est une parole de Dieu pour ce temps. Mon peuple d'Europe, sors de ta caverne d'âme. Même vous les Suisses, qui êtes si bien avec vos chocolats, vos cafés, et vos raclettes, et vos traditions, et tout cela. Je sens tellement de descendants de protestants en Suisse qui n'ont plus aucune relation avec Dieu, mais qui sont tellement contents avec ce qui fait du bien à leur âme et même à leur corps, en réalité. Alors, ils utilisent des choses de valeur. C'est du chocolat suisse. Que sais-je d'autre ? Mais ça n'a qu'un but, c'est de nourrir leur âme et leur corps. Alors, ils nourrissent pas leur âme avec de la drogue, peut-être, ni de la pornographie. Vous voyez, c'est légitime, mais ça a pris toute la place. Il n'y a plus de place pour l'Esprit de Dieu. Mon peuple d'Europe, sors de ta caverne d'âme et reviens à mon esprit en nettoyant ton corps, ton âme et ton esprit, et fais-le en te dépouillant. Y compris, alors attention, à tout ce qui sous couvert de religion s'adresse à votre âme et ça ne vient pas du Seigneur. C'est le frère Arnaud qui me disait l'autre jour qu'il était allé je ne sais plus dans quelle église où il y avait, n'est-ce pas, 3 orchestres, 25, comment on appelle ça, baffles et 42 chanteurs qui hurlaient sur la scène. J'exagère bien sûr un peu. Et puis il dit, tout ça, le but, c'était nous exciter. Waouh, 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 waouh. Jésus, Jésus. Ouais, d'accord, ok. Il n'y a rien de l'Esprit de Dieu dans tout ça. Simplement, on excite votre âme. On excite votre âme. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en train de se retirer de beaucoup d'endroits. Même d'églises, il se retire. Ah, venez, mes frères, il me dit des choses terribles. Oui, il se retire parce qu'il est en train de montrer une direction, c'est Jérusalem. Oh, je sais qu'il y a plein de gens qui ne seront pas d'accord avec ce que je veux. Alors, à peu près tous les pasteurs évangéliques traditionnels vont dire « Non, 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 mais ce n'est pas parce que je dis cela que je ne prêche plus Yeshua Mashiach, permettez, Yeshua Mashiach, comme, n'est-ce pas, victime expiatoire, n'est-ce pas, volontaire pour mes péchés, et n'est-ce pas, porte ouverte pour ma nouvelle naissance. Je le prêche toujours et je le prêche d'autant plus. » Soyons clairs. Frères et sœurs, ton temps est terminé, Europe, et tes décors sont devenus surannés, inutiles, et donc illégitimes, ce qui n'est plus utilisable par Dieu, ce qui n'est plus de Dieu, devient illégitime. Donc il y a un danger aussi à vouloir s'entêter à maintenir des choses et des structures qui, au regard de Dieu, ne doivent plus exister. Moi, je vous garantis que quand le Seigneur sera revenu, je ne sais pas s'il y aura encore des églises, en tout cas, pas sous la forme où elles sont. Il y a une déconstruction qui se fait depuis plusieurs années, d'ailleurs, et elle est claire, elle est évidente. Alors, s'il y a une déconstruction, ce n'est pas pour nous mener dans le vide, c'est pour nous mener ailleurs. Quand le Seigneur te dit de déménager d'une maison, c'est pour aller dans une autre. Alors, il faut savoir discerner les signes des temps et savoir dans quelle maison le Seigneur veut t'inviter à aller. Et pour le moment, le doigt est dirigé vers Jérusalem. Alors, attention à tout ce que tu dis, à tout ce que tu fais. Amen. L'aube va se lever sur une nouvelle civilisation avec Jérusalem, Israël et Yeshua au centre d'un tout nouveau décor. Je n'aime pas le mot décor ici, mais d'un tout nouveau cadre spirituel. Et le Seigneur nous demande de nous préparer à cela. Je disais avec mon épouse, c'est extraordinaire. Maintenant avec EasyJet, on fait un vol Genève-Tel Aviv en 4 heures pour un peu plus de 100 euros. Alors quand dans l'Écriture, il est dit que toutes les nations devront venir une fois par an à la fête de Sukkot pour Yerushalayim, autrement elles seront maudites. Alors avant on se disait, oh là là, mais comment ils vont faire? Tu te rends compte un peu quelle caravane, ils vont avoir une délégation en bagnole et puis en bateau. Seigneur, t'es dur. Non, le Seigneur a tout prévu. Il y aura des super jets, peut-être encore bien plus efficaces que les nôtres aujourd'hui, qui feront Genève-Tel Aviv en 10 minutes, ou en 5 minutes, je ne sais pas.
Mais ça
sera pendant le millénium. Ah, mais moi, je crois que le millénium va être une explosion. Il suffit d'aller en Israël aujourd'hui. Alors, c'est toujours Israël, c'est le problème. Tous les jours, ils trouvent un nouveau truc, ils trouvent une nouvelle solution, une nouvelle découverte scientifique, enfin de pointe, etc. Les Juifs sont incroyables. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une façon qu'a Dieu de montrer la direction. Hein. C'est par là que ça se passe. C'est par là que je vais revenir. Et c'est à partir de là que je vais donner à l'humanité des moyens extraordinaires pour vivre tout ce que ma parole va leur demander de vivre. Mon peuple, ton âme est-elle aussi encore bien trop encore encombrée de tes disputes ? Et je m'adresse ici aux évangéliques. Qu'est-ce que j'ai vu des conflits ? Des disputes, des ragots, des prises de position, des ministères qui se tiennent à l'écart les uns des autres sur rien du tout, sur des approximations, sur des paroles vagues, sur des ceci, des cela, des soupçons du mal, que sais-je d'autre. Voilà. J'ai eu récemment chez moi un évangéliste et sa femme. Lorsque j'ai voulu faire un motzi, vous savez, un simple motzi, vous prenez du pain et vous le partagez au moment du repas et vous faites la prière en hébreu. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas fait là? J'ai parlé en hébreu, vous vous rendez compte? Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi tzirchem min haaretz. Ça veut dire béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, créateur de l'univers, toi qui fais sortir le pain de la terre. Vous pouvez aussi faire le bénédicité. Seigneur, toi qui donnes pâture aux tout petits oiseaux. D'accord, vous pouvez le faire comme ça si vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Mais si j'ai envie de le faire, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi tzirchem, pourquoi est-ce que ça entraîne votre colère? Ah non, ça on ne peut pas faire. D'ailleurs, le pain, c'est pour la Sainte Seine. Je ne comprends pas cette bêtise profonde que l'on rencontre dans nos milieux chrétiens. Il y a une bêtise profonde, frères et sœurs, qui a amené des divisions terribles. En Italie, lorsque je prêche en Italie, où j'ai planté une assemblée dans une atmosphère de miracle incroyable, il y a 20 ans, me dit mon épouse, un jour, j'étais invité dans une église à un débat, vous savez, les débats. Et il y a une sœur italienne qui m'a dit, « Fratello, dites-moi, est-ce qu'un chrétien peut manger du boudin noir ?» J'ai dit non. Non, parce que ce sont des commandements qui ont été donnés pour les non-juifs, de ne pas toucher, ne pas consommer du sang. Oh, il y a du sang là-dedans. Alors, tout le monde s'est levé, c'était une catastrophe, je n'aurais jamais dû répondre. Et Pasteur m'a dit, moi, tout le monde ne devait pas répondre à ça. Je dis, mais pourquoi? Mais parce qu'en Italie, il y a eu une division dans le mouvement pentecôtiste, à cause du boudin. Il y en a un qui était pour, il y en a un qui était contre. Vous vous rendez compte? J'ai eu envie de leur chanter la chanson, tiens, voilà du boudin. C'est évident que l'Écriture dit, ne mange pas de boudin. C'est tout, terminé, fini, il n'y a même pas à discuter. Alors, il y en a qui disaient, oui, mais nous ne sommes plus sous la loi. C'est un peu l'hypocrisie. Mais c'est écrit dans le Nouveau Testament. Alors, on peut discuter comme ça, des années. Ce genre de discussion de mauvaise foi, ce genre de lâcheté, d'hypocrisie, de parce simplement, j'ai envie de bouffer du boudin noir, donc je tourne autour du pot, et je suis pasteur, et je fais une division dans tout un mouvement pour ça. Mais c'est fini tout ça, mes amis, c'est terminé. Que revienne celui qui dit que les choses soient oui et amen. Ou qui, par sa seule présence, sera un amen clair et net qui nous permettra d'avoir aussi une âme claire et nette. Mon peuple d'Europe, ton âme est encombrée de bien trop de disputes, de mauvaise foi, de tes jalousies, n'est-ce pas, que tu camoufles derrière les accusations contre autrui. Je me rappellerai toujours d'une sœur qui, entre guillemets, sert le Seigneur, et qui a subi un affront parce que elle allait dans une église, et j'étais là pour la première fois, Et le pasteur, me voyant de dos, m'a tapé sur l'épaule devant elle et m'a dit « Tu peux prêcher mercredi ?» Et j'ai prêché. Seulement elle, elle était assise depuis un certain temps dans cette église, elle n'avait jamais été invitée à prêcher. Ça a été le début d'une jalousie, une de ces jalousies qu'on n'avouera jamais, mais on va trouver l'occasion d'exprimer par des prétextes, voyez-vous. Alors, le monde, je le dis ouvertement, le monde évangélique est plein de ces choses. Plein de ces choses qui tournent autour de l'âme, qui n'ont rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Et on fabrique des discours, on fabrique des prédications, on fabrique même des ministères sur des, au fond, des choses qui viennent de l'âme et qui ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. Eh bien, le Seigneur dit aujourd'hui aux chrétiens évangéliques d'Europe, eh bien, ça suffit avec ce manque de pardon, ce manque d'amour, toutes ces partisaneries en tout genre, et aussi les ignorances de la parole de Dieu par rapport à ses racines juives, par exemple. Sors de là, fais la paix avec chacun autour de toi tant qu'il est temps, afin de rentrer dans le lieu secret avec Dieu. Beaucoup ne rentrent jamais dans le lieu secret avec Dieu parce qu'ils ne sont pas en paix. Je vous ai expliqué comment j'ai vécu deux situations très difficiles récemment avec deux personnes, et j'ai utilisé l'amour, et j'ai utilisé la bénignité, ne relevant pas leur manque, mais les bénissant malgré leur manque grave, et la façon dont Dieu a miraculeusement transformé les choses en ma faveur. En agissant ainsi, j'ai préservé mon entrée dans le lieu secret avec Dieu. Mettez vos vies en ordre, rapidement. Faites la paix avec les... J'ai dit ici, le Saint-Esprit qui passe et qui t'invite à revivre les écrits et le Nouveau Testament comme ils furent écrits et pas comme on te les a enseignés lorsque tu sais que c'est faux, et le courage aussi de te mettre en ordre avec Dieu. Ok ? Acheminez-vous vers le lieu secret pour y entendre ma voix et les choses très spéciales que je veux révéler à vos cœurs et à vos esprits en ces temps de transition. Oui, je lis mon message, c'est rare chez moi, mais je le fais. Aujourd'hui, en Eretz Israël et partout dans le monde, à peu près, à cette heure-ci, il est 5h30, je pense que c'est à peu près l'heure, où il y a une heure de plus en Israël, donc il est 18h, eh bien, on va sortir de la fête du Kippour, dont je vous ai parlé au début de ce message. Fête du Kippour qui a commencé hier soir, par l'entrée de Shabbat. Kippour, c'est la fête du grand pardon. Chez les Juifs, l'idée est la suivante, puisque Kippour vient de l'époque où on allait sur le mont du Temple, le Kohen Agadol, allait sacrifier, etc., poser du sang dans le Saint des Saints, et puis on relâchait aussi un bouc pour Azazel, et vous connaissez toutes ces choses. Ça signifiait que tous les péchés du peuple d'Israël étaient censés être couverts, et qu'on pouvait recommencer une nouvelle année. Donc c'était une transition très nette. Kippour, c'est une transition. Et si vous ne sentez pas que nous sommes aujourd'hui arrivés à un moment de transition après le message que je viens de relâcher, vous êtes tout à fait libre de ne pas l'accepter, de dire que je délire, si vous voulez. Mais moi, je ne me sens pas délivré. Aujourd'hui, c'est Kippour. Et on rentre dans quelque chose d'extraordinairement important, avec des jugements de Dieu qui vont descendre. Vous savez, à Kippour, les Juifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en ordre, les uns avec les autres, parce que selon la sincérité de leur mise en ordre, donc on pourrait traduire la capacité qu'ils ont à être dans l'intimité avec Dieu aussi. Parce que si tu rejettes le péché, tu permets, roi Rakoudesh, à l'Esprit de Dieu, d'être proche de toi. Et vous savez, je connais des jeunes juifs religieux en Israël qui ont un zèle pour l'Éternel absolument extraordinaire. Et ils se surveillent au niveau du péché. C'est incroyable de voir ça. Ah, ils ne sont pas sauvés. Mais, Kippour, okay, c'est la fête du grand pardon et au cours de laquelle l'Éternel, selon les juifs, inscrit nos noms pour l'année qui vient dans le livre de vie. Mais aussi, cela veut dire que certains mourront. Ça veut dire qu'il y a un aspect positif qui prouve un aspect négatif. C'est-à-dire que Dieu fait le ménage. Et la façon dont Dieu fait le ménage, eh bien, c'est les jugements. Et l'Europe va entrer dans des jugements terribles. Parce que l'Europe doit être abaissée. Le vaisseau n'est plus utilisable par Dieu. C'est ainsi. Ça ne veut pas dire pour ça que vous ne pouvez pas vous poser la question « Mais moi, je vis en Europe, qu'est-ce que je fais ?» Eh bien, simplement, gardez votre relation avec le Seigneur. Je n'ai pas dit que vous étiez l'Europe. Je parle de l'Europe, je ne parle pas de vous. Restez proche du Seigneur, et le Seigneur pourvoira à tout et saura vous protéger, vous encourager, vous garder, vous utiliser. Ok ? On a compris la différence. N'est-ce pas troublant, mes amis, d'avoir relâché le message de samedi dernier autour de la fête de Rosh Hashanah, c'est-à-dire, ce n'est pas une fête juive religieuse, mais c'est une fête qui n'est pas biblique, mais c'est quand même le nouvel an. Et ça annonce aussi une nouvelle période, le nouvel an. Hein. Et puis on arrive à Kippour, où là, vraiment, on entre dans une nouvelle période. C'est un message disant « Sors de tout », que j'ai donc relâché samedi dernier, enferme-toi avec moi dans un Naziréa en consécration pour la réception de ma pensée intime, incandescente. Frères et sœurs, je ressens que beaucoup manquent de cette intimité avec Dieu qui permet à Dieu de leur révéler des choses extrêmement fortes et qu'ils doivent peut-être garder secrètes. Vous rappelez les deux, trois années écoulées où j'ai effectué des voyages particuliers de prière en certains lieux de la planète? Il y a eu des conséquences. Vous les connaissez, vous avez vu. Je peux oser le dire ici. Non, l'Esprit de Dieu m'interdit de le dire, alors je ne le dirai pas. Mais il s'est passé des choses sur la planète depuis 3 ans. Et nous savons tous, hein Samuel, tu étais avec moi à certains endroits, que certaines prières qui ont été faites à certains endroits... Ça, c'est des choses qui ont été reçues dans le tabernacle avec le Seigneur, dans l'intimité. Je ne suis pas ici en train de vous exciter à vouloir trouver des trucs super trash à faire pour Dieu. Non. Ça se passe dans un grand dépouillement, dans une grande solitude, dans un grand retrait avec les choses du monde, à l'intérieur. Ce n'est pas trash du tout. D'ailleurs, ce que le Seigneur m'a dit, rappelez-vous, tu ne donnes pas témoignage de ces choses. Tu n'en parles pas. Elles t'ont été données dans le lieu secret, tu les as pratiquées, presque en secret, avec la collaboration des frères et des sœurs dans la prière, c'est tout. Et ça a eu un impact pourtant considérable. Je crois que le Seigneur est en train de nous appeler, nous, qui sommes de vrais enfants de Dieu en Yeshua, à rentrer dans la chambre secrète, dans le Mossad de Dieu, dans le secret avec Dieu, pour recevoir des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Parce que nous entrons dans une période de transition extraordinaire. J'espère que je me fais comprendre. Je trouve extraordinaire que, comme je vous l'ai dit, c'est d'avoir relâché le message samedi dernier au moment de Rosh Hashanah pour un message disant sors de tout, enferme-toi avec moi, hein, je l'ai dit déjà, et de prolonger ce message de samedi dernier aujourd'hui, au jour de Kippour, n'est certainement pas une coïncidence. Je vais donc sonner solennellement du shofar aujourd'hui, je ne l'ai jamais fait. Je répète, j'ai horreur de cette espèce de folklore que l'on veut... Ne pas faire extérieurement, voilà, on est juif, on fait comme ceci, on fait toutes les fêtes. Nous ne faisons les fêtes que lorsque Dieu nous dit de le faire. Oui, ça va très loin. On fait Pessah, parce que Dieu nous a dit de le faire. On fait Shabbat, parce que Dieu nous a dit de le faire. Mais je ne vais pas organiser tout le programme de la Keïla partout, n'est-ce pas, en faisant obligatoirement toutes les autres fêtes. Non. On les fait quand l'Esprit de Dieu nous montre de les faire. Amen. Donc je vais faire pour la première fois une chose que je n'ai jamais faite. Je vais sonner du shofar ici. Mon peuple, quitte ce que je veux que tu laisses derrière toi et viens avec moi dans mon lieu secret pour quelque chose de neuf et de très spécial. Alors je vais inviter Elisheva et Arnaud à venir parce qu'ils ont reçu une pensée du Seigneur. Venez s'il vous plaît. Pendant leur méditation cette semaine, Et ça va dans le même sens. Alors viens, Elisheva, et puis toi aussi, Arnaud, et vas-y.
Oui, moi, en ce qui me concerne, c'était pendant la lecture quotidienne d'aujourd'hui, parce qu'on a un programme de lecture qu'on suit tous individuellement, mais qui est le même. Et le Seigneur m'a attiré mon attention sur les chapitres 20, 21, 22 d'Ésaïe, que nous devions lire aujourd'hui. Et il m'a montré qu'à travers ces chapitres, on devait être vraiment très, très attentif. Parce que bien sûr, ces choses-là sont des choses qui sont déjà passées. Ça concernait Israël, et ça concernait des nations alentour. Mais le Seigneur nous parle aussi à travers sa parole. Et il explique, Ésaïe, en fait, est appelé par le Seigneur à se dépouiller de sa ceinture autour des reins de ses chaussures et d'aller devant le peuple pour parler. Et puis, pour dire, voilà, l'Éthiopie et l'Égypte vont être emmenées en captivité par les Assyriens. Et vous ne voulez pas regarder ce qui est en train de se passer. Tout ça va être détruit autour de vous, mais c'est une image pour vous, pour le peuple d'Israël, parce que vous n'êtes pas en ordre. Vous essayez de trafiquer pour consolider la muraille autour de vous, en détruisant la maison, vos propres maisons pour consolider la muraille. Je pensais quelquefois à la France qui surcharge les gens d'impôts pour pouvoir essayer de combler le déficit au niveau du pays. Et puis le Seigneur m'a montré, mais regardez, vous devriez ouvrir les yeux parce que je vais détruire. Vous aussi, vous allez être entraînés dans la captivité. Et puis Dieu m'a interpellée en lisant ça. Je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Et le Seigneur a dit, je parle parce que dans le Moyen-Orient, c'est horrible ce qui est en train de se passer pour le moment. Il y a une destruction inimaginable à cause de l'islam. Et personne ne veut ouvrir les yeux, mais ça va arriver chez vous aussi, tout ça. Alors ouvrez les yeux maintenant. Et surtout, prenez garde. Voilà, c'est ce que Dieu m'a montré aujourd'hui.
Amen. Notez, ce qui est intéressant, c'est que le prophète s'est dépouillé, selon l'ordre de Dieu, de ses sandales et de sa ceinture. Vous voyez ? Pour se rapprocher du Seigneur, il s'est dépouillé de choses usuelles, de choses de l'âme. Vous voyez là le parallèle ? Moi, je vais juste vous lire deux versets qui ont sauté vraiment dans mon cœur en écoutant Lance Lambert, qui a donné un message récemment que j'ai écouté. Et il a cité deux versets, et j'ai senti que ces deux versets étaient tout à fait d'actualité. Il s'agit donc du psaume 33, au verset 10 et 11. Il est écrit « L'Éternel dissipe le conseil des nations, il anéantit les desseins des peuples. Mais le conseil de l'Éternel se soutient à toujours. Les desseins de son cœur subsistent d'âge en âge. » Ça veut dire clairement que tout ce que nous croyons être solide et que nous avons construit peut disparaître, n'a pas été construit par nous en fait, mais avec la permission de Dieu et le vouloir de Dieu, mais Dieu a ses propres desseins et c'est lui qui décide. Voilà moi ce que je ressens très très fort. Nous sommes à la veille d'un bouleversement mondial extraordinaire et il faut se tenir prêt. Arnaud, tu avais reçu quelque chose aussi.
Oui, alors moi j'ai lu hier soir Ésaïe 13 en fait, et en le lisant, je disais la Bible normalement, parce que j'étais un peu en retard dans la lecture quotidienne. Et quand je suis arrivé à partir du verset 7, c'est devenu comme vraiment solennel. Moi, et je vais vous lire ce passage. C'est « Aussi, toutes les mains deviennent lâches et tout cœur d'homme se fond. Ils sont dans l'épouvante, saisis de douleur et d'angoisse. Ils souffrent comme une femme en travail. Ils se regardent l'un l'autre avec stupeur. Leurs visages ont la pâleur de la flamme. Voici, le jour de l'Éternel arrive. » Jour cruel, jour de fureur et d'ardente colère, qui réduira le pays en désolation et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles du ciel et leurs astres ne feront pas briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera point luire sa clarté. Et je punirai la terre de sa malice et les méchants de leur iniquité, je mettrai fin à l'orgueil des superbes et j'abattrai l'insolence des oppresseurs. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim et les humains plus que l'or d'Ophir. Aussi, je ferai trembler les cieux et la terre sera ébranlée de sa place par la colère de l'Éternel des armées au jour de l'ardeur de son courroux. Donc voilà, c'est vraiment un jugement qui est parlé ici et ça m'a vraiment sauté aux yeux comme un jugement qui venait maintenant en fait. Alors,
Amen. Voilà, je pense que le Seigneur a largement confirmé, n'est-ce pas, le message que l'Esprit de Dieu essaie de nous faire passer. Et j'ai donc à cœur de sonner 3 fois le shofar en 7 heures. Voilà, donc j'espère que je vais y arriver parce que mon shofar n'est pas de bonne qualité, mais je n'ai que celui-là sous la main. Mais je pense que Dieu, même avec un instrument déficient, peut faire des choses merveilleuses.
Remplis de bonheur, remercie.
Alléluia. Pendant qu'on chantait le chant, excuse-moi Anna, mais on chantait le chant précédent, si tu peux remettre Samuel. Revêt-moi Seigneur de ta louange, de moi ton plus bel habit. J'ai une vision, j'ai vu le ciel de notre Dieu qui était absolument ouvert, grand ouvert. Alors bien sûr, pour nous qui sommes sauvés en Yeshua Mashiach et qui vivons, je l'espère, une vie droite et sanctifiée, honnête, humble, dans le lieu secret avec notre Dieu, où nous sommes convoqués de manière très spéciale en ces temps, le ciel est ouvert pour nous. Et Seigneur, je te bénis pour cela, mais il y avait autre chose dans ce ciel tout ouvert. C'est comme si Dieu disait, voilà, j'ouvre tout maintenant. Et ça signifie que tout ce qui est de moi va descendre sur la terre, va venir maintenant pour accomplir les desseins qui sont les miens dans ces temps de la fin. Et Seigneur, je te bénis, je te loue parce que il y a d'autres significations, ce ciel ouvert, mais je ne veux pas les partager, je ne ressens pas de les partager, mais je sais que certains, en écoutant ce message, sauront ce que ça veut dire. Je sais que Dieu leur parlera, Dieu vous parlera en écoutant ce message. Certains auront à cœur de ressentir, je peux le dire, que l'enlèvement est proche. Quand je dis qu'il est proche, ça ne signifie pas avant la tribulation, au milieu ou après. Je ne me prononce pas sur ces choses depuis très longtemps. Mais le ciel est ouvert. Les cieux sont ouverts. Toutes choses sont prêtes. Toutes choses sont prêtes. Elles viennent maintenant. Merci Seigneur Yeshua. Merci Seigneur Yeshua. Seigneur Yeshua. Merci de ce que tu nous as conduit tout le jour de notre vie jusqu'à ce jour. Merci pour ce qui vient maintenant et nous sommes avec toi, Seigneur. Et tu es avec nous. Et nous t'en bénissons, Père. Nous te bénissons pour le bon nom de Yeshua. Amen.
Alléluia, alléluia, bénis Neshama. Alléluia, alléluia, bénis Neshama.
Saint le force, l'éternel.
Qui est semblable à toi.
significative comme nous l'avons chanté maintenant. Ô Seigneur, Dieu d'Israël, qui est semblable à toi dans les cieux? Qui est semblable à toi sur la terre? Ô Seigneur, Dieu d'Israël, à toi, Seigneur, l'autorité, la gloire, les jugements sur toutes choses. Et Seigneur, en ce début d'année juive qui commence, nous te bénissons, nous te remercions. Seigneur, nous te demandons simplement de nous garder dans cette intimité avec toi afin de ne pas dépareiller. Seigneur, lorsque tu vas descendre et juger comme tu le fais, comme tu vas le faire. Seigneur, apprends-nous à être à notre place et à faire ta volonté, exactement comme tu le voudras dans ces temps difficiles qui sont là devant nous. Tant que nous nommons difficiles, mais qui sont nécessaires, parce que tu viens, Seigneur, changer les paramètres, tu viens changer beaucoup de choses. Tu viens, Seigneur, parce que ton fils Yeshua vient aussi. Et c'est vrai qu'il faut que beaucoup de choses changent. Nous en avons perçu et capté quelques-unes. Il nous en reste d'autres à percevoir et capter. Et nous voulons être tes enfants, attentifs, à l'écoute, intelligents, sobres, dans ces jours, dans le bon nom de Yeshua. Amen. Passage, je veux me prosterner et t'adorer. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse tous et voilà, samedi prochain, si le Seigneur le permet. Amen. Amen.